Sexte. Où Atso admire le portail de l'abbatiale et Guillaume retrouve Hubertin de Casals. L'église n'était pas majestueuse comme d'autres que je vis par la suite à Strasbourg, à Chartres, à Bamberg et à Paris. Elle ressemblait plutôt à celle que j'avais déjà vue en Italie, peu encline à s'élever vertigineusement vers le ciel et solidement posée à terre, souvent plus large que haute. Si ce n'est qu'à un premier niveau, elle était surmontée, comme une forteresse, par une rangée de créneaux carrés et au-dessus de cet étage s'élevait une seconde construction, plus qu'une tour, une solide seconde église, surmontée d'un toit pointu et percée de sévères fenêtres. Robuste église abbatiale, comme en construisaient nos anciens en Provence et Languedoc, loin des hardiesses et de l'excès des broderies propres au style moderne, qui seulement à une époque plus récente, je crois, s'était enrichie au-dessus du cœur d'une flèche hardiment pointée vers la voûte céleste. Deux colonnes droites et nues encadraient l'entrée, qui apparaissait à première vue comme une grande arcade unique. Mais à partir des colonnes prenaient naissance deux ébrasures qui, surmontées par d'autres et multiples arcs, dirigeaient le regard, comme dans le cœur d'un abîme, vers le portail proprement dit, qu'on entrevoyait dans l'ombre, surmonté d'un grand tympan, soutenu de chaque côté par deux pieds droits et au centre par un trumeau sculpté qui divisait l'entrée en deux ouvertures défendues par des portes de chêne renforcées de métal. À cette heure du jour, le soleil pâle descendait quasi d'aplomb sur le toit et la lumière tombait de biais sur la façade sans éclairer le tympan. Si bien que, passés les deux colonnes, nous nous trouvâmes d'un coup sous la voûte presque sylvestre des voussures s'élevant de la suite de colonnes mineures qui proportionnellement renforçaient les contreforts. Les yeux enfin accoutumés à la pénombre, soudain le muet discours de la pierre historiée, accessible comme il l'était immédiatement à la vue et à l'imagination de tous, car « pictura est laicorum literatura », éblouit mon regard et me plongea dans une vision qu'à grand-peine aujourd'hui encore ma langue parvient à dire. Je vis un trône placé dans le ciel et un assis sur le trône. Le visage de l'assis était sévère et impassible, les yeux grands ouverts dardés sur une humanité terrestre arrivée au terme de son aventure, les cheveux et la barbe majestueux qui retombaient sur sa poitrine comme les eaux d'un fleuve, en ruisseaux tous égaux et symétriquement répartis. La couronne qu'il portait sur la tête était enrichie d'émaux et de gemmes, la tunique impériale de pourpre se disposait en ample volute sur ses genoux, chargée d'or froid et de dentelles en fil d'or et d'argent. La main senestre, immobile sur les genoux, tenait un livre scellé, la dextre se levait en un geste de bénédiction ou de menace, je ne sais. Le visage était illuminé par la terrifiante beauté d'un nimbe crucifère et fleuri, et je vis briller autour du trône et au-dessus de la tête du trônant un arc-en-ciel d'émeraude. Devant le trône, sous les pieds du trônant, coulait une mer de cristal, et autour du trônant, autour du trône et au-dessus du trône, quatre animaux terribles. Je vis, terribles pour moi qui les regardais extasiés, mais dociles et très doux pour le trônant, dont ils chantaient sans trêve les louanges. En vérité, tous ne pouvaient pas se dire terribles, parce que beau et gentil m'apparut l'homme qui, à ma senestre et à la dextre du trônant, présentait un volumen. Mais horrible me parut du côté opposé un aigle, le bec dilaté, le plumage hérissé disposé en cuirasse, les serres puissantes, les grandes ailes ouvertes. Et au pied du trônant, sous les deux premières figures, deux autres, un taureau et un lion, serrant entre leurs griffes et leurs sabots un livre, le corps tourné vers l'extérieur du trône, mais la tête vers le trône, comme tordant les épaules et le cou en un élan féroce, les flancs palpitants, les membres de bête à l'agonie, la gueule ouverte toute grande, les queues enroulées et torsadées comme des serpents et s'éployant au sommet en langue de feu. L'un et l'autre ailés, l'un et l'autre couronnés d'un nimbe, malgré leur apparence formidable, n'étaient pas créatures de l'enfer mais du ciel, et s'ils semblaient terrifiants, c'était parce qu'il rugissait en adoration d'un prochain qui jugerait les vivants et les morts. Autour du trône, aux côtés des quatre animaux et sous les pieds du trônant, comme vu en transparence sous les eaux de la mer de cristal, comme pour remplir tout l'espace de la vision, composé selon la structure triangulaire du tympan, s'élevant d'une base de 7 plus 7, puis à 3 plus 3 et ensuite à 2 plus 2, de chaque côté du trône, se trouvaient 24 vieillards sur 24 petits trônes, revêtus d'habits blancs et couronnés d'or, qui avaient dans la main une vielle, qui une coupe de parfum, et un seul jouet, tous les autres ravis en extase, tournés vers la scie dont ils chantaient les louanges, les membres tords, comme ceux des animaux, de façon qu'ils pussent tous voir le trônant, mais non d'une manière bestiale, bien au contraire, avec des mouvements de danse extatiques, comme dut danser David autour de l'arche, de façon que, où qu'ils fussent, leurs pupilles, contre la loi qui régissait la taille des corps, convergeassent vers le même point fulgurant. Oh, quelle harmonie d'abandon et d'élan, de posture affectée et pourtant pleine de grâce, dans ce langage mystique de membres miraculeusement délivrés du poids de la matière corporelle, nombre annonciateur infus dans une nouvelle forme substantielle, comme si la troupe sacrée était fouettée par un vent impétueux, souffle de vie, frénésie de délectation, jubilation alléluiatique, prodigieusement devenue, de son qu'elle était, image. Corps et membres habités par l'esprit, illuminés par la révélation, les visages bouleversés par la stupeur, les regards exaltés par l'enthousiasme, les joues enflammées par l'amour, les pupilles dilatées par la béatitude, l'un foudroyé par une délicieuse consternation, l'autre transpercé d'un plaisir consterné qui, transfiguré par l'émerveillement, qui, rajeuni par la félicité, les voilà tous chantant avec l'expression de leur visage, avec le drapé de leur tunique, avec l'allure et la tension de leurs membres, un cantique nouveau, les lèvres mi-closes en un sourire de louanges éternelles. Et sous les pieds des vieillards, et en arc au-dessus d'eux, et au-dessus du trône, et au-dessus du groupe tétramorphe, disposés en bandes symétriques, à peine discernables l'une de l'autre, tant la science de l'art les avait rendues toutes mutuellement proportionnées, égales dans la variété et bigarrées dans l'unité, uniques dans la diversité et diverses dans l'apta coadunatio, en admirable congruence des parties alliées à une séduisante suavité de teinte, miracle de correspondance et d'harmonie de voix entre elles, dissemblables, compagnie disposée à la façon des cordes de la cithare, consentante et sans trêve conspirante cognation par force profonde et interne, apte à opérer l'univoque dans l'alternance même du jeu des équivoques, ornementation et collation de créatures tour à tour irréductibles et réduites tour à tour, œuvre d'amoureux enchaînement, menée par une règle céleste et mondaine à la fois, lien et ferme nœud de paix, amour, vertu, régime, pouvoir, ordre, origine, vie, lumière, splendeur, espèce et figure, égalité nombreuse resplendissante, grâce à la luminance de la forme sur les parties proportionnées de la matière. Voilà que s'entrelaçaient toutes les fleurs et les feuilles et les vrilles et les touffes et les corymbes de toutes les herbes dont on orne les jardins de la terre et du ciel, la violette, le cytise, le serpolet, le lys, le troène, le narcisse, la colocase, l'acanthe, le malabatrum, la myrrhe et les baumes tranquilles. Mais tandis que mon âme, ravie par ce concert de beauté terrestre et de majestueux signaux surnaturels, était sur le point d'exploser en un cantique de joie, mon œil, accompagnant le rythme proportionné des rosaces fleuries aux pieds des vieillards, tomba sur les figures qui, entrelacées, faisaient corps avec le trumeau central qui soutenait le tympan. Qu'était-elle et quel message symbolique communiquaient ces trois couples de lions dressés en X transversalement disposés, rampant comme des arcs, s'arc-boutant dans le sol sur leurs pattes postérieures et appuyant les antérieures sur la croupe de leurs propres compagnons, la crinière ébouriffée en volutes anguiformes, la gueule ouverte en un grondement menaçant, liée au corps même du trumeau par une patte ou un nid de vrille. Pour calmer mon esprit, comme sans doute ils étaient là pour dompter la nature diabolique des lions et pour la transformer en allusion symbolique aux choses supérieures, sur les côtés du trumeau étaient deux figures humaines, invraisemblablement élonguées, autant que la colonne même, et jumelles de deux autres qui, symétriquement de l'un et l'autre côté, leur faisaient front sur les pieds droits historiés vers l'extérieur, où chacune des portes de chêne avait ses propres jambages. C'étaient donc quatre figures de vieillards, aux parafernaux desquels je reconnus Pierre et Paul, Jérémie et Isaïe, contorsionnés eux aussi comme dans un pas de danse, leurs longues mains osseuses levées, doigts tendus comme des ailes, et comme des ailes leurs barbes et leurs cheveux qui ondoient sous un vent prophétique, les plis de leurs robes immensément longues, agitées par leurs immenses jambes, donnant vie aux vagues et volutes, opposées aux lions, mais de la même matière que les lions. Et tandis que mon œil fasciné quittait cette énigmatique polyphonie de membres saints et de muscles infernaux, je vis sur le côté du portail et sous les arcs profonds, parfois historiés sur les contreforts, dans l'espace, entre les fluettes colonnes qui les soutenaient et ornaient, et encore sur la dense végétation des chapiteaux de chaque colonne, et de là se ramifiant vers la voûte sylvestre des multiples voussures, d'autres visions horribles à voir, et justifiées en ce lieu, pour leur seule force parabolique et allégorique, ou pour l'enseignement moral qu'elles transmettaient. Et je vis une femme luxurieuse nue et décharnée, rongée par des crapauds immondes, sucée par des serpents, accouplée à un satyre au ventre rebondi et à pattes de griffon, recouverte de poils hirsutes, le gosier obscène qui hurlait sa propre damnation. Et je vis un avare, roide de la roideur de la mort sur son lit, somptueusement orné de colonnes, désormais proie débile d'une cour de démons dont l'un lui arrachait avec ses râles son âme en forme de petit enfant. Hélas, jamais plus d'enfant à naître à la vie éternelle. Et je vis un orgueilleux sur les épaules duquel s'installait un démon en lui plantant les griffes dans les yeux, tandis que deux autres gourmands se déchiraient en un corps à corps répugnant, et d'autres créatures encore, têtes de bouc, poils de lion, gueules de panthère, prisonnier dans une selve de flammes dont je pouvais presque sentir la laine ardente. Et autour d'eux, mêlés à eux, au-dessus d'eux et sous leurs pieds, d'autres visages et d'autres membres, un homme et une femme qui s'empoignaient par les cheveux, deux aspics qui gobaient les yeux d'un damné, un homme ricanant qui dilatait de ses mains crochues la gueule d'une hydre, et tous les animaux du bestiaire de Satan, réunis en consistoire, et placés comme gardes et couronnes du trône qui leur faisaient face pour enchanter la gloire avec leur défaite, des faunes, des êtres au double sexe, des brutes aux mains à six doigts, des sirènes, hippocentaures, gorgones, harpies, incubes, dragontopodes, minotaures, loups cerviers, léopards, chimères, cénopères au museau de chien qui lançaient du feu par les naseaux, dentirans, polychodés, serpents vileux, salamandres, cérastes, Kélydre, couleuvre lisse, bicéphale à l'échine armée de dents, hyène, loutre, corneille, crocodile, hydropex aux cornes en scie, grenouille, griffon, singe, cynocéphale, léoncrotte, manticore, vautour, tarande, belette, chouette, basilic, hypnale, ouivre, spectafigue, scorpion, saurien, cétacé, cytale, amphisbène, chirime, dipsade, rémora, murène, lézards verts, poulpes et tortues. On eût dit que la population des enfers tout entière s'était rassemblée pour servir de vestibule, selve obscure, lande désespérée de l'exclusion, à l'apparition du trônant du tympan, à son visage plein de promesses et de menaces, eux, les vaincus de l'Armageddon, en face de celui qui viendra séparer définitivement les vivants et les morts. Et défaillant presque devant cette vision, ne sachant plus désormais si je me trouvais dans un lieu ami ou dans la vallée du jugement dernier, je fus saisi d'effroi et non sans peine, je retins mes larmes, et il me sembla entendre, ou l'entendis-je vraiment, cette voix. Et je vis ces visions qui avaient accompagné mes premiers pas de novice, mes premières lectures des livres sacrés, et les nuits de méditation dans le cœur de Melk, et dans la défaillance de mes sens si faibles et si affaiblis, jouis une voix puissante, comme une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Et c'est là ce que je fais maintenant. Et je vis sept lampes d'or, et au milieu des lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. La poitrine ceinte d'une bandelette d'or, tête et cheveux blancs comme laine blanche, les yeux comme flammes de feu, les pieds comme bronze ardent dans la fournaise, la voix comme le tonnerre d'un déluge, et il tenait dans sa dextre sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Et je vis une porte ouverte dans le ciel, et celui qui était assis me sembla comme jaspe et sardoine, et un arc-en-ciel enveloppait le trône, et du trône sortaient éclairs et tonnerres. et le trônant, prit dans ses mains une faux affilée et cria « Donne de la faux et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui trônait donna de sa faux, et la terre fut moissonnée. Alors seulement je compris que la vision ne parlait pas d'autre chose que de ce qui se passait dans l'abbaye et que nous avions saisi sur les lèvres réticentes de l'abbé. Et combien de fois dans les jours qui suivirent ne revins-je pas contempler le portail, sûr de vivre l'histoire même qu'il racontait. Et je compris que nous étions montés jusque-là pour être les témoins d'un grand et céleste carnage. Je tremblais comme si j'étais trempé par la pluie glacée de l'hiver. Et j'entendis une autre voix encore, mais cette fois, elle venait de derrière mon dos, et c'était une voix différente parce qu'elle provenait de la terre et non pas du centre resplendissant de ma vision. Elle rompait plutôt la vision, car Guillaume, à cet instant je m'aperçus de sa présence, jusqu'alors perdu lui aussi dans cette contemplation, se retournait avec moi. L'être qui se trouvait derrière nous paraissait un moine, quoique sa coule sale et déchirée lui donna plutôt l'air d'un vagabond. Dans ma vie, il ne m'est jamais arrivé, comme il arriva par contre à nombre de mes frères, d'être visité par le diable, mais je crois que si ce dernier devait m'apparaître un jour, il n'aurait d'autre aspect que celui que m'offrait en cet instant notre interlocuteur. La tête rasée, non par pénitence, mais sous l'action passée d'un purulent eczéma, le front bas, au point que s'il avait eu encore ses cheveux, ceux-ci se seraient confondus avec les sourcils, qu'il avait fournis et broussailleux. Les yeux étaient ronds, avec des pupilles petites et d'une extrême mobilité, et le regard innocent ou malin, je ne sais, et peut-être les deux à la fois, soudain changeant au même instant. On ne pouvait parler de nez qu'à cause d'un os qui prenait racine au milieu des yeux, mais comme il se détachait du front, il s'y enracinait aussitôt, ne devenant plus que deux sombres cavernes, deux narines dilatées remplies de poils. La bouche, reliée aux narines par une cicatrice, était large et ingrate. Et entre la lèvre supérieure, inexistante, et l'inférieure, proéminente et charnue, émergeaient à un rythme irrégulier des dents noires et pointues comme celles d'un chien. L'homme sourit, ou du moins, c'est ce que je crus, et, brandissant le doigt comme pour avertir, il dit
« Penitentia guité, voyez qu'en dragon Ventulus est pour la ronger ton âme. La mort c'est super nos, puis que vient le pape saint pour libérer nos à Malo de todas les péchés. Vous plaît, c'est un nécromancie de Domini Nostri Jesu Christi, et même joie me dolce plaser me dolors. Cave il diabolo. Saint-Père, il me guette en quelque coin pour me planter les dents dans les talons. Mais, Salvator non est incipiens, bonum monasterium et à qui on baffre et on prie dominum nostrum. Et elle resbalait une queue de cerise et amen. No. »
Il me faudra, au cours de cette histoire, parler encore et d'abondance de cette créature et en rapporter les propos. J'avoue qu'il m'est fort difficile de le faire, car je ne saurais dire à présent, comme je ne le suis jamais alors, quel genre de langue il parlait. Ce n'était pas du latin, langue dans laquelle nous nous exprimions entre hommes de lettres à l'abbaye. Ce n'était pas du vulgaire de ces contrées, ni d'ailleurs un vulgaire que j'eusse oncle entendu. Je crois avoir donné une pâle idée de sa façon de parler en reproduisant un peu plus haut, tel que je me les rappelle, les premières paroles que je lui entendis émettre. Quand plus tard je fus au courant de sa vie aventureuse et des différents lieux où il avait vécu, sans trouver racine en aucun, je me rendis compte que Salvator parlait toutes les langues et aucune. En somme, il s'était inventé une langue à lui, formée de lambeaux des langues avec lesquelles il était entré en contact, et une fois je songeais que sa langue était non point la langue adamique que l'humanité heureuse avait parlé, tout le monde uni par un seul langage, depuis les origines du monde jusqu'à la tour de Babel, et pas non plus une des langues apparues après le funeste événement de leur division, mais précisément la langue babélique du premier jour après le châtiment divin, la langue de la confusion des premiers âges. Et d'autre part, je ne pourrais pas appeler langue le langage de Salvator, parce que dans chaque langue humaine, il y a des règles, et chaque terme signifie ad placitum une chose, selon une loi qui ne change pas, parce que l'homme ne peut appeler le chien une fois chien et une fois chat, ni prononcer des sons auxquels le consensus des gens n'est pas attribué un sens défini, comme il arriverait à qui dirait le mot « blitiri ». Et cependant, peu ou prou, je comprenais ce que Salvator voulait signifier à l'instar des autres. Preuve qu'il ne parlait pas une, mais toutes les langues, aucune de façon exacte, prenant ses mots tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Je notais même par la suite qu'il pouvait nommer une chose tantôt en latin, tantôt en provençal, et je me rendis compte que, plus qu'inventer ses propres phrases, il utilisait disjecta membra d'autres phrases, entendues un jour selon la situation et les choses qu'il voulait dire, comme s'il ne réussissait à parler d'un aliment, en somme qu'avec les mots des gens chez qui il avait mangé de cet aliment, et à n'exprimer sa joie qu'avec des sentences qu'il avait entendues émettre par des gens joyeux, le jour où il avait éprouvé une joie égale. C'était comme si son langage était à l'image de sa face, fait de morceaux de face d'autrui assemblés, ou encore, comme je vis parfois, de précieux reliquaires, si licet magnis componere paroi, ou aux choses divines, les diaboliques, qui naissaient des débris d'autres objets sacrés. Au moment où je le rencontrais pour la première fois, Salvator m'apparut, et pour son visage, et pour sa façon de parler, comme un être non dissemblable des croisements velus et ongulés que je venais de découvrir sous le portail. Plus tard, je m'aperçus que l'homme était peut-être de bon cœur et de complexion facétieuse. Plus tard encore, mais procédons par ordre. Pour la raison supplémentaire que, à peine eut-il parlé, mon maître l'interrogea avec grande curiosité. « Pourquoi as-tu dit « penitentiagite » demanda-t-il.
« Domine frate magnificentissime » répondit Salvator avec une sorte de courbette. « Jésus venturus est et les homini deben faire pénitence, non ?»
Guillaume le regarda fixement. « Tu es venu ici en provenance d'un couvent de minorites ?»«
Nous comprenne. »
« Je te demande si tu as vécu parmi les frères de saint François. Je te demande si tu as connu ceux qu'on appelait les apôtres. » Salvator pâlit, ou plutôt son visage bronzé et bestial devint gris. Il s'inclina profondément, prononça du bout des lèvres un
« Fane retro !»
se signa avec dévotion et s'enfuit en se retournant de temps à autre. « Que lui avez-vous demandé ?» Guillaume resta un instant pensif. « Peu importe, je te le dirai plus tard. Maintenant, entrons. Je veux trouver Hubertin. »